tuer dans quatre murs. Des pilules, des piqûres, ça va durer des mois. La folie comme seule loi, il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineux, ta solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu et sans maître de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Au sommaire de cette émission, un petit patchwork de différentes choses. D'abord, un article d'Anna Pitch, alors c'est, qui est... commenté ainsi par André Bitton du CRPA, article d'Anna Piche. Nous avons déclenché dans les années 2000, à l'époque où je présidais le groupe Information Asile, deux affaires de ce genre, et une au début de la décade précédente. Aucune n'a débouché sur une condamnation pénale pour homicide involontaire. L'une de ces affaires nous a néanmoins confirmé que dans le cas où la personne décédée était hospitalisée sans son consentement au moment du décès, il était utile d'attaquer en irrégularité et en demande indemnitaire l'hospitalisation sans consentement, même si celle-ci était fondée. Cela permet au moins de déclencher une indemnisation. Par ailleurs, dans une de ces affaires, l'Office national d'indemnisation n'a décaissé une menue indemnisation qu'après plus de 10 ans de procédure. Dans ces affaires, la procédure pénale n'a rien donné. Les médecins légistes se sont alignés du côté des institutions psychiatriques en concluant à la mort naturelle. J'en avais déduit, il y a une dizaine d'années, pour le compte du CRPA, ex-groupe Information Asile, que les institutions psychiatriques ont un permis de tuer. J'étais en contact à l'époque avec plusieurs dizaines de cabinets d'avocats ainsi qu'avec des professeurs de droit. Personne ne m'a contredit. Il est donc en effet important que ce genre d'affaires soit médiatisé et dans ce cas... ça ne nous concerne plus. Voilà. Donc André Bitton du CRPA. Alors, après la lecture de cette tragédie, 5 ans après la mort toujours inexpliquée de Dimitri en psychiatrie, je vous proposerai un article paru à l'occasion de la sortie du livre de Albert Moukaïber, docteur en neurosciences et psychologue clinicien, Neuromania. Un article donc intitulé « 5 idées reçues sur le cerveau ». Et effectivement, c'est très édifiant. Et puis, pour continuer l'émission... J'aurai le temps de lire un petit passage de Petit éloge de la poésie de Jean-Pierre Siméon. Petit passage choisi parce qu'il contenait le mot psychiatrie. Et la lecture, la poursuite de la lecture d'un chapitre du livre 1312 Raisons d'abolir la police, livre collectif dirigé par Gwenola Ricordo sur l'abolitionnisme et chapitre consacré à la psychiatrie et aux fous et folles. Voilà, donc, eh bien, c'est parti. Pour commencer, une chanson de La rue qui est à nous. Voilà, si ça veut bien partir, ça ne part pas au start automatique. Je vais donc appuyer sur le bouton play.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les copieurs, des mots pour mots pour les cafeteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilettes pour les voleurs.
Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Un mot pour tous,
tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers, et des mots jetés pour les pas bien beaux, des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants, et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire
pour les enfants,
des mots tabous pour le taboulé.
Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous,
tous pour un mot.
Un mot pour tous,
tous pour un mot. Des mots croisés pour les retraités, et des petits mots
pour les béguins,
des mots d'ordre pour les ordonnés, des mots fléchés
pour les indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson.
L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89.4. Vol au-dessus d'un nid de violence. 5 ans après la mort, la mort toujours inexpliquée de Dimitri en psychiatrie, l'homme de 28 ans autiste est décédé le 11 août 2020 dans un hôpital, un milieu où les violences institutionnelles et médicales semblent systémiques. Un article du 10 août 2025 Les Jours, la revue Les Jours. L'autisme ne tue pas, lit-on sur une pancarte brandie face au palais de justice de Colmar dans le Haut-Rhin. En mars dernier, les proches de Dimitri Perrier et de nombreux soutiens viennent réclamer justice devant le tribunal resté muet jusqu'ici, à la suite de la mort soudaine du jeune le 11 août 2020. Une nouvelle marche blanche s'organise à Roufache ce lundi pour la 5e année consécutive afin de rendre hommage à Dimitri et obtenir la vérité sur son décès. Il était alors hospitalisé une nouvelle fois à l'hôpital de cette commune alsacienne depuis le mois de juillet 2020 suite à des crises d'angoisse dans le contexte anxiogène du confinement. 3 semaines plus tard, et après un placement en isolement pendant une quinzaine de jours, il décède d'un arrêt cardiaque qui reste inexpliqué, comme de nombreux autres survenus au sein de l'institution psychiatrique. Les pathologies cardiovasculaires et respiratoires sont la première cause de décès des personnes suivies pour des troubles psychiques. Le risque de décès est 3 à 4 fois plus élevé que dans la population générale. Une surmortalité qui n'est pourtant pas directement liée à leur particularité psychique. Je cite, « Les pathologies psychiatriques n'entraînent pas de conséquences organiques directes pouvant être létales », rappelle l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, IRDES. Mais alors, comment expliquer un tel taux de mortalité ? Au sein des institutions psychiatriques, une réelle omerta entoure le nombre de décès et leurs causes. En effet, selon le rapport « Mort à l'hôpital » de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, publié en 2009, le nombre précis de décès en hôpital psychiatrique n'est plus connu avec précision depuis que les statistiques nationales de décès tenues par l'INSERM ne comportent plus cet item. 1997. Les causes invoquées sont multifactorielles, exposition aux effets secondaires des médicaments psychotropes, consommation de tabac, défaut de prise en charge médicale sur le plan physique. Néanmoins, différents témoignages pointent du doigt la surmédication ainsi que les pratiques brutales de contention comme cause de décès de personnes hospitalisées en psychiatrie. Mais c'est aussi le silence de l'institution psychiatrique qui interroge les proches rester dans l'incompréhension. Dans cette nouvelle série, Les Jours, le journal Les Jours, raconte l'histoire de ces personnes proches et concernées qui se battent pour obtenir vérité et justice face à ce qu'elles décrivent comme des violences institutionnelles et médicales systémiques envers les personnes hospitalisées en psychiatrie. L'histoire de Dimitri Perrier n'aurait jamais dû se clore le 11 août 2020 à l'hôpital de Roufac. Ce jeune homme de 28 ans, autiste, y était hospitalisé temporairement. « Rien n'a laissé présager cette mort-là », s'indigne son oncle Florian. Initialement, il est admis pour des crises d'angoisse et au bout du parcours de soins, il est retrouvé mort. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Fin de citation. Au mois de juillet 2020, le médecin décide de placer Dimitri en isolement sans visite de sa famille, ainsi que la loi le permet. Dimitri faisait des crises d'angoisse assez répétées, explique sa mère Stéphanie. Et dans ces moments-là, il lui arrivait de fuguer. C'est arrivé plusieurs fois et il était ensuite hospitalisé pour des courts séjours. Avec le confinement, les crises d'angoisse se sont accentuées. Il a de nouveau été hospitalisé en mai 2020. Toutes ces personnes ont vécu le confinement très difficilement. Fin de citation. Les semaines précédant son décès, sa famille s'inquiétait, impuissante, de la détérioration de son état. On se questionnait beaucoup sur les traitements qui étaient administrés à Dimitri car on ne le reconnaissait pas. Vraiment, littéralement, il n'avait plus les yeux en face des trous. Se souvient avec émotion son oncle. Au mois de juillet, le médecin a décidé de le placer en isolement et lui interdit de recevoir de visite de sa famille. Une décision médicale qui peut être prise légalement, y compris sans l'accord de la famille. Un non-sens pour la mère de Dimitri. Je cite. Ça n'avait aucun sens pour nous, au moment de ce confinement, isoler quelqu'un avec des crises d'angoisse. C'est encore quelque chose de très douloureux pour moi. Que l'on m'ait interdit de le voir pendant ces 15 jours avant son décès, ça ne passe vraiment pas. On n'avait jamais été séparés aussi longtemps. Dans tout ce malheur, c'est peut-être ce que j'ai le plus de mal à accepter. Le sentiment qu'il soit parti en se sentant abandonné, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à pardonner. Ce soir d'août 2020, Dimitri était tout juste sorti d'isolement. Sa mère, Stéphanie, découvre un appel manqué de l'hôpital. Elle rappelle, un infirmier décroche. « je suis désolé, le médecin va vous rappeler », lui répète-t-il, paniqué, avant de raccrocher brusquement. Le médecin référent de Dimitri la joint quelques minutes plus tard pour l'informer du décès de son fils. L'hôpital tarde ensuite à s'expliquer sur les raisons de ce décès et refuse dans un premier temps de transmettre le dossier médical. Un refus de communication qui s'étend même aux forces de l'ordre. Même les gendarmes ont dû hausser le ton pour exiger qu'ils leur donnent le dossier médical. Ça a pris plusieurs jours, se rappelle Stéphanie. Après plus de 3 semaines d'attente, le résultat de l'autopsie leur est communiqué, un arrêt cardiaque inexpliqué. Le légiste a conclu qu'il n'y avait aucun problème physiologique et pas d'agression non plus, mais il n'a aucune idée de ce qui a pu provoquer cet arrêt cardiaque. S'en suivent 4 longues années de batailles médicales, judiciaires et médiatiques, de multiples expertises, contre-expertises pour tenter de comprendre les raisons du décès de Dimitri. Le temps passe et la famille se résout à médiatiser l'histoire de Dimitri pour recueillir des témoignages et tenter de faire réagir la justice. On est obligé de créer un levier, un rapport de force, sinon ça ne fonctionne pas. Il y a forcément des soignants qui ont vu quelque chose. Il s'est forcément passé quelque chose, ce n'est pas possible. C'est une longue bataille, nous n'avons pas d'autre choix que de médiatiser notre histoire pour faire bouger les choses. Alors, chaque 11 août, les marches blanches se succèdent. Une pétition recueille 14 000 signatures, des articles de presse sont publiés. À la suite d'une mobilisation devant le tribunal de Colmar le 5 mars 2025, le procureur de la République de Colmar accepte de recevoir au pied levé la famille. Jean Richert s'engage alors auprès de la famille. Une réponse leur sera donnée dans le mois qui suit. Respectant sa promesse, le parquet informe la famille de Dimitri de l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire. Un soulagement pour la famille qui a néanmoins conscience des délais de l'institution judiciaire. L'enquête, protégée par le secret de l'instruction, suit son cours, comme nous le confirme l'avocat de la famille de Dimitri, Jean-Paul Cordier, afin de déterminer si on a les éléments constitutifs qui permettent de relier le décès de Dimitri Perrier à un homicide involontaire. Il faut attendre l'avancée de l'enquête. Fin de citation. La brutalité et l'incompréhension de la mort de Dimitri ont fait naître un profond sentiment d'injustice chez ses proches. Des questionnements se portent sur la prise en charge médicale au sein de l'institution psychiatrique. Il y a quelque chose qui m'échappe complètement dans ces établissements de santé, se questionne Florian, l'oncle de Dimitri. On administre des médicaments aux patients, on les assomme, on les sédate, on ne sait pas quoi faire d'eux. Et pourtant aujourd'hui, on a quand même beaucoup de recherches qui avancent. On a une littérature scientifique et médicale qui est extrêmement dense. Je ne comprends pas. Il y a une déshumanisation de ces personnes hospitalisées en psychiatrie. Fin de citation. Contacté par Les Jours, le parquet de Colmar n'a pas souhaité s'exprimer. L'hôpital de Rouffach a, quant à lui, publié un communiqué afin de témoigner tout son soutien face à la douleur de la famille de Dimitri Perrier et assure avoir toujours répondu aux sollicitations de la justice. Le besoin de vérité et de justice ne fait que s'accroître ces 5 dernières années qui ont été d'une particulière violence pour cette famille. Sa mère a eu la double peine, elle a été confrontée à la violence médicale, à la violence médiatique, à la violence judiciaire. C'est très dur de trouver de la légèreté après ça, explique Florian. Fatigué de ce combat sans fin contre Goliath, il reste déterminé à ne rien lâcher. C'est le minimum que l'on doit à Dimitri. Il est mort tout seul dans la peur, dans l'interrogation. C'est terrible, c'est le minimum qu'on lui doit à lui et à toutes les autres personnes à qui c'est arrivé. Fin de l'article. Voilà, je n'ai pas de commentaires de plus à faire sur cette situation. Et je remets une chanson. Une chanson de La Rue qui est à nous. Et nous reprendrons avec l'article 5, idées reçues sur le cerveau, du chercheur et psychologue clinicien Albert Mukaiber. Et le start ne marche toujours pas, donc je vais recommencer à appuyer sur le bouton play manuellement. Sur les chemins
de la bohème. J'ai croisé le bout du monde, des petits matins au café crème, où je taxais ma première blonde. Avant de partir, le pouce en l'air, à l'autre bout du bout du monde. Avant de partir, le pouce en l'air, à l'autre bout du bout du monde. Sur les chemins de la bohème, j'ai croisé la neige et le soleil. Une fille qui m'a dit je t'aime, un soir où elle n'avait pas sommeil. Avant de partir, le cœur en l'air, à l'autre bout du bout du monde. Avant de partir, le cœur en l'air, à l'autre bout du bout du monde. Sur les chemins de la bohème, j'ai parlé des langues étrangères, mais pas poursuivi un poème. Je me suis lavé à l'eau de mer avant de chanter des mots en l'air sur des musiques vagabondes. Avant de chanter des mots en l'air sur des musiques vagabondes.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste, c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et la sortie du livre Neuromania de Albert Mukaiber a donné lieu à une interview de l'auteur, propos recueillis par Alexandre Lacroix. Voilà, c'est donc le... sur la je crois que c'est sur Philosophie Magazine. C'est dans Philosophie Magazine. 5 idées reçues pour sur le cerveau. Contrôler son cerveau reptilien, faire travailler son cerveau droit et pas seulement le gauche, être en quête un shoot de dopamine. Vous avez sans doute croisé ou même employé ces expressions qui viennent des neurosciences, mais ne reposent sur aucune base solide. Le chercheur et psychologue clinicien Albert Mukaiber revient en cette année avec un essai batailleur, Neuromania, à la Rie Édition, où il désingue nos idées reçues sur l'organe de la pensée. Alors, question du journaliste, ou de la journaliste, de Alexandre Lacroix. D'habitude, les experts en neurosciences jouissent d'une position plutôt confortable dans le débat public. En effet, ils se présentent comme détenant le code de la conscience, ayant à leur disposition un savoir complexe et spécialisé sur notre psychisme. Or, avec son nouveau livre Neuromania, le chercheur et vulgarisateur Albert Mukaiber se livre à une opération étonnante. Il scie délibérément la branche sur laquelle il est assis, c'est-à-dire qu'il explique avec une sincérité déconcertante que nous n'avons aucune théorie scientifique unifiée expliquant comment fonctionne cet amas de quelques 100 milliards de neurones interconnectés qu'est notre cerveau, et qu'en l'absence de connaissances fermes et complètes, un tas de neuromythes ont fleuri comme autant de légendes urbaines. Mais pourquoi fait-il cela? Pourquoi souligne-t-il les limites de sa discipline? Est-ce pour faire de manière socratique profession de non-savoir? J'ai grandi dans un monde, répond l'intéressé, où ce qui nous parvenait de la science était foisonnant et stimulant. Les théories d'Einstein se diffusaient dans le public, le mathématicien Isaac Asimov écrivait de la science-fiction. Aujourd'hui, on est confronté à une posture stabilisée, hyper spécialisée et technique de la science qui lui enlève une belle part de sa magie. Moi, je trouve plus intéressant de présenter les neuroscientifiques comme des explorateurs, des gens un peu fous qui ont plus de questions que de réponses. Il existe plusieurs théories de la conscience en compétition, mais soyons francs, c'est comme si on était en train de se disputer pour savoir qui détient l'échelle qui permet de monter sur la Lune. On est très loin du compte. D'ailleurs, c'est une chose que j'annonce dès la première séance à mes patients. Je vais essayer de les soigner, mais je suis dans la situation d'un médecin d'il y a 2 siècles. Disons que j'ai quelques plantes médicinales, des régimes, des conseils, mais je ne sais pas comment on guérit une dépression profonde. On va devoir faire des expériences ensemble, tenter des trucs. C'est la complexité de ce type d'aventure qui m'intéresse bien plus que le réductionnisme de quelques scientifiques, à mon sens peu sérieux, qui se présentent comme détenteur des clés de la psyché humaine. Après cette entrée en matière, Albert Mukaiber est prêt à déraciner quelques neuromythes. Idée reçue numéro 1. Nous devons réguler notre cerveau reptilien. C'est un mythe si tenace qu'un chercheur, Joseph Cesario, lui a consacré en 2013 un article au titre savoureux « Votre cerveau n'est pas un oignon avec un reptile à l'intérieur ». En fait, la croyance au cerveau reptilien a une longue histoire. On peut aller en cherchant l'origine lointaine chez Platon qui, dans le Phèdre, décrit le moi comme un cocher devant tenir les rênes de 2 chevaux, l'un qui cherche à s'élever vers ce qui est céleste, intellectuel, l'autre qui descend vers le bas, vers l'animalité. De même, chez Aristote, on a l'idée que l'âme a plusieurs couches, qu'il y a une âme animale contenue dans une âme intellective qui en quelque sorte l'enrobe et la domine. Bien plus tard, on retrouve des survivances de cette idée chez Sigmund Freud, qui décrit le moi comme pris en sandwich entre le ça, les pulsions et le surmoi, instance chargée de garder le contrôle. En neurosciences, une théorie un peu similaire a été proposée dans les années 1950 par un chercheur américain, Paul D. MacLean, sous le nom du cerveau triunique. C'est une théorie qui mélange l'observation de l'anatomie cérébrale et un darwinisme assez simpliste, et qui nous dit que nous avons dans le cerveau les ganglions de base, la structure qui serait la plus ancienne du point de vue évolutionnaire, qu'il qualifie de reptilienne, puis le système limbique qui serait le siège des appétits et des passions, enfin le néocortex mammalien qui, parce qu'il est plus développé chez l'humain, permettrait le contrôle rationnel. Pour la petite histoire, le qualificatif de reptilien n'a aucun sens, car les humains n'ont pas d'ancêtres communs avec les reptiles. Nous ne sommes pas issus des mêmes lignées évolutionnaires. Plus encore, nous savons aujourd'hui qu'il y a des tâches cognitives qui sont effectuées par le système limbique et que, de toute façon, le cerveau est totalement interconnecté, la plupart des tâches impliquant à la fois les couches internes et externes. MacLean n'a fait que projeter les préjugés relatifs à l'animalité héritée de Platon sur l'organisation anatomique du cerveau, et personne n'a jamais pris au sérieux sa théorie dans la communauté scientifique, sauf qu'elle a eu un grand succès dans le public parce qu'elle est conforme à nos préjugés moraux. On trouve un avatar de cette manière de voir dans le bug humain, Robert Laffont, 2019, un best-seller de Sébastien Boller. Selon lui, il y a une zone dans le cerveau, le striatum, qui commanderait les impulsions et nous amènerait à réaliser un programme préhistorique, à rechercher sans fin à assouvir notre appétit, ce qui pousserait mécaniquement des humains à détruire la planète. Là, c'est amusant parce qu'on a un problème avec ceux qui décident de devenir vegan ou qui modèrent leur consommation. On en fait quoi? On décide qu'ils n'ont pas de striatum? Ou alors, si je suis ultra riche, j'achète 2 Ferrari, je déculpabilise en prétendant que je n'y suis pour rien, que c'est la faute à mon striatum? La simplification abusive du psychisme humain nous amène à des conclusions absurdes. Idée reçue numéro 2, notre cerveau droit serait artiste, le gauche ferait des maths. Là, tout vient d'une série d'opérations qui ont été pratiquées par 2 scientifiques, Roger Sperry et son étudiant Michael Gazzaniga, qui ont travaillé sur l'épilepsie à partir des années 1950. On ne savait pas traiter cette maladie à l'époque. On a découvert que si l'on découpait le corps calleux, la structure qui relie les 2 hémisphères du cerveau, sur des singes, ceux-ci n'étaient plus sujets aux crises épileptiques. On a tenté la même chose sur des humains. Après cette opération, qu'on appelle la callosotomie, on s'est aperçu que les patients fonctionnaient normalement. Ils n'avaient pas conscience que quelque chose avait changé. Mais les 2 moitiés de leur cerveau ne communiquaient plus. Gazzaniga a fait de nombreuses expériences sur ses patients, sur ce qu'on appelle la contralatéralité. C'est mon cerveau gauche qui traite l'information qui vient de mon œil droit et vice-versa. Mais je peux parler principalement grâce à mon hémisphère gauche. Donc, si je montre un objet seulement à l'œil droit et que je demande au patient de me dire ce qu'il voit, il me répond verbalement qu'il ne voit rien. Si je montre un poulailler à l'œil droit et que je demande au patient quel est l'outil adapté pour nettoyer ce poulailler, le patient va dire une pelle et inventer un récit pour justifier son choix. C'est la grande découverte de Gazzaniga, la confabulation, qui est aujourd'hui un critère clinique utilisé dans la compréhension de beaucoup de pathologies comme la maladie d'Alzheimer ou le trouble paranoïaque. Notre cerveau invente des histoires sur la base de l'information disponible, même quand celle-ci est tronquée. Aujourd'hui, nous avons certaines réserves sur les interprétations de Gazzaniga. Nous savons que les mêmes afflux sensoriels parviennent aux 2 hémisphères, que nous sommes moins latéralisés que nous ne le pensions à cette époque. Mais la théorie des 2 cerveaux, du gauche et du droit, provient de là. Une fois de plus, elle n'a aucun crédit dans la communauté scientifique. Elle prête à sourire. Mais elle s'est implantée profondément dans les esprits parce qu'elle corrobore ce préjugé général selon lequel Certains seraient plus émotionnels littéraires et d'autres plus rationnels matheux. Ce sont des catégorisations qui existaient avant ces travaux et auxquelles on a donné un vernis de neurosciences. Si je dis qu'il y a des artistes et des scientifiques, c'est une évidence. Si j'affirme que certains utilisent leur cerveau droit et d'autres le gauche, je confère à cette évidence une allure séduisante et c'est précisément ce que j'appelle la neuromania. Plus sérieusement, on observerait des différences entre l'activité cérébrale de quelqu'un qui lit Emmanuel Kant ou les chants de Maldoror. Et encore d'énormes différences entre quelqu'un qui joue du saxophone, ce qui implique le souffle, et quelqu'un qui joue du piano. Pareil en maths, la géométrie ne sollicite pas les mêmes zones que l'algèbre. Donc, dire qu'il y a une zone du cerveau pour la philosophie et une autre pour les sciences, c'est vraiment une grossière approximation, c'est une projection abusive de la séparation des disciplines scolaires sur notre système cérébral. Quand on cherche une différence, on trouve quelque chose, mais qu'est-ce que cela signifie? Si je cherche des différences entre le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme, je vais en trouver. Je trouverai peut-être encore plus entre un footballeur et un danseur classique, ou entre deux personnes de même sexe choisies au hasard. Les résultats auxquels j'arrive n'ont pas de valeur, parce que je suis ici victime d'un biais bien connu, le raisonnement motivé. Autrement dit, je trouve ce que je cherche. Idée reçue numéro 3. Il y a des aires du cerveau spécialisées dans certaines activités. Ce neuromythe, baptisé également localisme, n'est pas du même acabit que les deux précédents. Beaucoup de psychologues, de psychiatres et même de neuroscientifiques sont localistes. Et ils ont des raisons de l'être. Il y a un fondement empirique à cette position. Si je dis que le siège de la digestion de l'estomac, ce n'est pas totalement, ce n'est pas totalement faux. Cependant, la digestion commence dans la bouche, avec la salive, elle se poursuit dans la trachée, l'œsophage, le duodénum. Le localisme est une survivance contemporaine de la phrénologie et de la craniologie du XIXe siècle, pour lesquelles il existait quelque chose comme la bosse des maths. Lorsque des progrès ont été réalisés en imagerie cérébrale, notamment avec la technologie d'imagerie par résonance magnétique, la première chose qu'ont fait les chercheurs a été de cartographier les zones qui s'illuminaient selon les activités du patient. Et on s'est mis à attribuer à chaque zone une fonction. La plus célèbre, la plus consensuelle, est l'aire de Broca, ou encore la zone du langage. Il est vrai que certaines personnes qui ont une tumeur ou une lésion dans l'aire de Broca sont aphasiques. Mais le contraire se vérifie aussi, on s'est aperçu que certains avaient une aire de Broca lésée et qu'ils parlaient normalement. Pire, en 2007, un homme de 44 ans est allé passer une IRM suite à des problèmes moteurs dans la jambe et il s'est aperçu qu'il n'avait presque pas de cerveau, 75% de masse en moins, un grand vide dans la tête. Et cet homme était marié, avait fait des études, avait un travail normal. En fait, le cerveau fonctionne de manière distribuée. L'aire de Broca est indéniablement impliquée dans les circuits neuronaux du langage, mais le langage n'est pas situé dans l'aire de Broca. Nous devons donc en rabattre avec l'ambition de pouvoir lire dans le cerveau grâce à l'imagerie cérébrale, pour reprendre le titre d'un best-seller récent de l'un des pontes de l'imagerie, Russell Poldrack, The New Mind Readers, Les Nouveaux Devins 2020. Non traduit. Du reste, les technologies d'IRM sur lesquelles nous fondons nos cartographies sont hautement spéculatives. D'abord, l'IRM ne mesure pas directement l'activité des neurones, mais des modifications de l'oxygénation du sang dans certaines parties du cerveau qui indiquent que les neurones seraient plus actifs à tel endroit. Ensuite, les zones de couleur sont attribuées par un algorithme hyper sophistiqué. Enfin, on a dit IRM documenté que pour certaines catégories socioculturelles, les gens vivant près d'un hôpital universitaire. Il y a mille choses à redire, mais je vais prendre un exemple précis. Dans le cortex temporal inférieur, il y a une zone où l'on a trouvé des neurones qui reconnaissent un visage, ce qu'on appelle les neurones Jennifer Aniston, parce qu'on a observé un patient chez qui un neurone précis s'activait chaque fois qu'on lui montrait le visage de l'actrice américaine. Bien, mais ce neurone n'est pas spécifique, il s'active aussi dans d'autres cas. Le problème du localisme, c'est qu'il nous fait passer à côté de choses énormes. Une fois qu'on s'est convaincu que la cognition, c'est juste le cortex préfrontal, on ne la cherche plus ailleurs. Or, on est en train d'identifier des opérations de cognition mathématique dans le cervelet, qui était supposé ne servir que pour les mouvements fins. Idée reçue numéro 4. Les tests de personnalité, BMTI, Enneagram, ProcessCom, etc., sont utiles pour recruter ou organiser des équipes en entreprise. Les tests de personnalité sont très utilisés en entreprise par la direction des ressources humaines ou le marketing. Mais ils soulèvent plusieurs problèmes. D'abord, ils ont des qualités psychométriques très faibles. Le MBTI, se contente de dégager 16 types de personnalités universelles, ce qui est vraiment très peu. Une classification beaucoup moins fine que l'horoscope, si on compte les ascendants. Ensuite, une bonne manière d'évaluer la fiabilité d'un test, c'est d'observer si on obtient la même réponse pour la même personne à 6 mois d'intervalle. Négatif. Il n'y a pas non plus de fiabilité interjuge. Selon le professionnel qui vous fait passer le test, vous n'obtenez pas le même résultat. C'est un peu comme si vous aviez un thermomètre qui vous donnait 23 degrés dans la pièce et qui, à la deuxième utilisation, indiquait 35 degrés. Le problème est que ces tests sont censés prédire la performance de quelqu'un en entreprise et que des décisions d'orientation sont prises sur cette base. Ils peuvent aussi avoir un effet dissuasif. Si vous rêvez d'être commercial, mais que le test vous attribue une personnalité introvertie, vous allez en conclure que ce métier n'est pas pour vous. Le succès de ces tests repose sur ce qu'on appelle l'effet Forer. En 1948, le psychologue Bertram Forer a fait subir un test de personnalité à ses étudiants avec un ensemble de questions et il a distribué à tous la même réponse. Or, les étudiants ont évalué la pertinence de la description de leur personnalité à 4,26 sur 5 en moyenne. Pourquoi se sont-ils laissés séduire ? Il y a 3 conditions pour que l'effet Forer opère. Il faut que vous ayez la conviction que le test était personnalisé, que vous ayez confiance dans la personne qui le fait passer, qu'il y a au moins 70% de jugement positif. En outre, il y a un style, une manière de rédiger les réponses propres au test de personnalité. Prenez des phrases comme « Vous pouvez paraître très sûr de vous à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous avez des craintes. » Ou bien, « Vous aimez bien la collaboration, mais vous ne craignez pas de vous imposer quand vous le jugez nécessaire. » Ou encore, « Vous avez un problème dans votre vie sexuelle ou affective qui continue de vous tourmenter secrètement. » C'est toujours vrai, non ? Cependant, je voudrais soulever un autre type de critique. Pour quelles raisons les entreprises s'intéressent-elles aux critères de la personnalité ? Est-ce le bon critère pour prédire la performance ? Si vous voulez recruter un cardiologue ou un pilote d'avion, qu'est-ce qui est le plus important ? Son diplôme et son expérience ? Ou alors sa personnalité ? Et puis, il y a encore autre chose. Quelqu'un qui a 3 heures de transport quotidien pour aller au travail, même avec une personnalité épanouie et volontaire, sera fatigué et peu performant. Autrement dit, l'environnement compte davantage que la personnalité. Idée reçue numéro 5, nous sommes les jouets de la sérotonine et de la dopamine. Pour aborder ce point, il faut d'abord préciser le fonctionnement des synapses qui connectent entre eux les neurones. En fait, c'est comme si 2 neurones étaient 2 fils électriques et qu'il y avait entre eux un vide, une fente synaptique. Par moments apparaît dans la fente une petite goutte d'eau qui permet de faire passer le courant. Une fois que le courant est passé, la petite goutte est aspirée par le fil émetteur et le courant ne passe plus. La petite goutte d'eau qui permet la transmission synaptique, c'est une neurohormone, ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Nous avons plusieurs types de neurotransmetteurs qui circulent dans le cerveau, la sérotonine, la dopamine ou l'ocytocine. Selon une conception très répandue, la sérotonine est l'hormone du bonheur, la dopamine est l'hormone du plaisir et l'ocytocine est celle du lien affectif, de l'amour. Bon, eh bien, c'est une bêtise sans nom. Parfois, nous avons des patients qui viennent et nous disent qu'ils veulent savoir combien ils ont de dopamine dans le cerveau. Mais on ne sait pas le mesurer, sauf à ouvrir les crânes. On n'a pas d'indicateur de la chimie du cerveau et on ne sait pas ce que serait un bon équilibre chimique. Prenons le cas de la dépression. Les antidépresseurs produisent un effet assez précis, c'est-à-dire qu'ils sont pour la plupart des inhibiteurs de la recaptation de la sérotonine. Pensez aux petites gouttes. Quand on administre un antidépresseur, la petite goutte n'est plus réaspirée par le fil qui l'a émise. La connexion est maintenue. Est-ce que ça marche pour lutter contre la dépression ? Oui, mais cela agit sur d'autres facteurs. La régulation de la masse corporelle, l'érection. On a des personnes sur lesquelles l'inhibition de la recapture de la sérotonine ne produit pas d'effet. D'autres chez qui elle induit des tendances morbides. En réalité, on ne sait pas ce qu'on fait parce que notre compréhension des mécanismes cérébraux n'est pas assez avancée. Quant à la dopamine, c'est la grande success story de l'histoire des neurosciences. On sait qu'il y a émission de dopamine quand on mange du chocolat ou qu'on fait l'amour, et celle-ci est impliquée dans les processus d'apprentissage. De là, on arrive à une vision hyper simpliste selon laquelle toute addiction serait une dépendance à la dopamine. Sur le web, on vous vante ici et là la dopamine détox consistant à se sevrer des réseaux sociaux et des smartphones. Mais quand une personne est accro, que ce soit aux réseaux sociaux, au sexe ou à la nourriture, rien n'assure qu'elle éprouve du plaisir dans son addiction. Le plus souvent, elle se déteste, se méprise quand elle y cède. Le plaisir chez l'humain est une émotion complexe qu'on a voulu réduire de manière caricaturale à un boost chimique. Mais pourquoi écraser à ce point notre complexité ? À mon sens, plus nous croyons que nous sommes agis par nos hormones et moins nous cultivons notre agentivité, c'est-à-dire notre capacité à nous comporter comme des sujets autonomes. Voilà, c'est la fin de l'article. C'était dans Philosophie Magazine numéro 183 du octobre 2024. L'interview de Albert Mukaiber, auteur de Neuromania aux éditions Alary. A-2-L-A-R-Y. Je passe sans transition à... Alors oui, ce petit article, non, ce petit passage de Petit éloge de la poésie de Jean-Pierre Siméon. Donc on passe à quelque chose de complètement différent. Donc en page 4 de couverture, on peut lire « Je ferai, oui, l'éloge de la poésie ». Sans restriction, sans état d'âme, parce que la poésie n'est justement pas le lieu de la demi-mesure. Je le ferai d'une voix pleine, vive s'il le faut, parce qu'on ne peut admettre plus longtemps, n'est-ce pas, que les poètes, malgré les révérences qu'on leur fait de loin en loin pour se disculper de la désinvolture et de l'indifférence avec lesquelles on les traite ordinairement, soient renvoyés à leur étrange petit commerce particulier qui n'aurait rien à voir avec les affaires du monde. Je veux faire l'éloge de la poésie pour tous, non pas, voyez-vous, comme un agrément, un ornement de l'existence ou le partage de je ne sais quelle distinction supérieure, comme une nécessité vitale. Alors, donc, j'arrive tout de suite au cœur du livre et vous lis la chose suivante. Le plus simple est de commencer par cette vérité formulée il y a plus de 200 ans par le poète allemand Novalis. La poésie est un réel véritablement absolu. Plus c'est poétique, plus c'est vrai. Le fait que cette affirmation sonne aux oreilles de tous comme un extravagant paradoxe, suscitant le sourire ou le haussement d'épaule, dit tout de la pauvreté de notre jugement concernant la réalité et du contresens généralisé qui affecte décidément la poésie. La pensée commune, bien sûr, oppose la poésie et la réalité. Et il est bien connu que poète et réaliste sont deux termes qui s'excluent. Dans le langage courant, ne dit-on pas de quelqu'un qu'il est un peu poète, pour dire qu'il n'a pas les pieds sur terre, qu'il prend ses désirs pour des réalités, bref, qu'il est, comme on disait autrefois, un songe creux. Cela revient à dire, bien que notre intuition et notre expérience même le démentent à chaque instant, que la réalité tient à quelques restrictions près à ce qui saute aux yeux, à ce qu'on voit, touche, entend, aux faits dénombrables, aux phénomènes observables, aux structures et mécanismes objectifs qu'on en déduit, aux quantifiables et aux fiables, et pour ce qui est de nos actes et de nos sentiments, à ces scénarios que sont les descriptions des psychologues, sociologues, politologues, criminologues, etc. De même que la médecine segmente le corps, cette unité vivante, en morceaux différenciés dont rendent compte les pneumologues, podologues, neurologues, etc., notre compréhension de la réalité par inventaire de ses parties est rationnelle, stable et cohérente, et finalement rassurante, puisqu'elle permet d'y voir clair et assure à la pensée une prise sur le confus et le multiple. Cette représentation n'est évidemment ni sotte ni erronée. Elle est au vrai indispensable, puisque l'action comme la pensée n'ont de validité que si elles circonscrivent leur objet. Mais son très grave défaut est que la définition de la réalité qui la sous-tend est justement une définition, c'est-à-dire qu'elle restreint la réalité aux limites que nous lui imposons et la fige dans l'ordre rationnel que nous lui surimposons. Or, la réalité ne dépend pas de nous. Elle déborde le champ de notre conscience et nulle spéculation ne saurait en venir à bout. Lorsque, comme c'est le cas dans les société moderne d'Occident, à un consensus implicite fondé par l'autorité des savoirs, restreint la réalité aux limites du tangible et du mesurable, restriction qui satisfait la volonté de maîtrise, on vit dans un malentendu collectif, sinon un mensonge. Ne va-t-on dire que là encore j'exagère ou qu'à mon tour je caricature, écrit Jean-Pierre Siméon. Je voudrais que ce fût le cas, mais il suffit de considérer le poids de l'économique, de la finance, du commerce, de l'exploitation des ressources naturelles et de la consommation des objets dans les affaires humaines, pour constater quelle part de la réalité nous concerne et nous occupe quasi exclusivement. S'il est une autre part, elle est traitée comme une question subsidiaire. Ses demandes sont commodément gérées et canalisées par les religions, éventuellement réprimées par la psychiatrie, marginalisées dans les pratiques artistiques, celles-ci à la rigueur tolérées si elles peuvent être incluses dans le processus marchand, c'est-à-dire du réel profitable. Voilà, je voulais faire cette citation de extrait de Petit éloge de la poésie de Jean-Pierre Siméon, car elle comprenait le mot psychiatrie et n'en fait pas l'éloge. Voilà. Et pour finir, un extrait de 1312 raisons d'abolir la police sous la direction de Gwenola Ricordo, un recueil de différents auteurs, textes de différents auteurs. Et donc visant l'abolition de la police, comme son nom l'indique. Mais il y a aussi un chapitre dans ce livre consacré à l'éventuelle abolition de la psychiatrie, intitulé « Folie, handicap et abolition », dont l'auteur est Mad Résistance. Voilà. Donc c'est sans doute aussi un texte lui-même collectif. Des abolitionnistes se sont toujours mobilisés et livrés à des analyses critiques autour de la folie et du handicap. Parmi les exemples actuels, citons Mental Health First, projet d'intervention d'urgence mis sur pied par l'Anti-Police Terror Project à Oakland et à Sacramento, en Californie, après des années de lutte pour la libération des Noirs. Mais de nombreux défendeurs des fous demandent peu aux faits de l'histoire abolitionniste et vice-versa. Celles et ceux, donc les abolitionnistes aussi demeurent peu au fait de la question de la folie et du handicap. Celles et ceux d'entre nous qui militent de façon isolée au nom des fous doivent se demander ce qu'ils peuvent apporter aux luttes plus larges pour l'abolition et ce que celles-ci ont alors à prendre. Peut-on proposer des formations « Connaissez vos droits » visant à éviter les violences policières et l'hospitalisation forcée ? Quelles initiatives de solidarité avec les personnes détenues, notamment les campagnes de sensibilisation et les programmes d'envoi de livres dans les prisons, peut-on mettre en œuvre à destination des gens incarcérés dans les hôpitaux d'État ? Nous pourrions renforcer les liens entre les personnes hospitalisées et les gens qui se trouvent dehors, entre guillemets, en soutenant également les personnes soumises à un traitement sur ordre d'un tribunal, à la terreur policière, etc. Encourageons les échanges entre les mouvements en soumettant des rapports sur nos activités à des sites d'actualité indépendants comme It's Going Down et en invitant leur rédaction à solliciter activement ces contributions. Les personnes folles, Andy et leur communauté peuvent participer à des campagnes de harcèlement téléphonique contre l'administration pénitentiaire et les militants anticarcéraux appuyer des initiatives comme le programme Shield de Mind Freedom qui mobilise le public en soutien aux personnes hospitalisées de force. En contexte psychiatrique, un ou une patiente qui ne coopère pas avec son plan de traitement est qualifié de réfractaire. Nous devenons réfractaires quand nous refusons de croire au récit du capitalisme racial et que nous commençons à rêver d'un autre monde. Collaborer avec des mouvements pour l'abolition de la prison et de la police nous permet de nous attaquer aux fondements de la logique carcérale et de contribuer à des efforts collectifs visant à abolir les systèmes de violence, d'exploitation et de contrôle partout où ils existent. Espaces autonomes et imagination. Depuis les années 1970, les personnes folles, Andy et leur communauté créent leurs propres espaces autogérés. Ces espaces abolitionnistes ont toujours été au cœur du combat pour la désinstitutionnalisation. Les programmes de soutien par les pairs actuels sont souvent intégrés au système institutionnel de soins en santé mentale et à son service. Mais des espaces autogérés comme la White Flower Alliance dans l'ouest du Massachusetts demeurent exemples de supervision ou de contrôle clinique. Les membres de la White Flower Alliance, dont son personnel, ont tous déjà connu la folie, les troubles psychiatriques, le traumatisme, l'itinérance ou la dépendance, parmi d'autres épreuves. Alors la dépendance, c'est la dépendance à des produits, bien sûr. La communauté propose des espaces où les gens peuvent se retrouver, utiliser un ordinateur ou faire de l'exercice. Des groupes de soutien animés par des pairs, comme Alternative to Suicide, permettent à ces personnes de parler librement de leurs expériences sans craindre que quelqu'un n'alerte la police. Nombre de ces groupes ont commencé à se réunir en ligne durant la pandémie et restent accessibles via Zoom. Online and phone support Wildflower Alliance. La Wildflower Alliance gère en outre une maison de répit baptisée AFIA qui sert de solution de substitution à l'hospitalisation psychiatrique. AFIA Peer Respite Wildflower Alliance. À la différence des environnements cliniques traditionnels, personne ne prend de notes ou n'établit de plan de traitement pour vous, le personnel d'AFIA, estimant que l'autodétermination est fondamentale pour la guérison. Tous les espaces et groupes animés par la Wildflower Alliance, dont AFIA, sont offerts gratuitement à la communauté. Bâtir des espaces comme la Wildflower Alliance constitue un aspect fondamental de l'abolition, mais nous n'avons pas toujours besoin d'un espace autonome à proximité pour instaurer un mode de guérison non hiérarchique dans nos relations. Pendant la pandémie de coronavirus, Elliot Fukui a proposé divers outils pour, entre guillemets, survivre ensemble à l'apocalypse. Notamment la création d'équipes ou de cellules permettant à des amis de s'entraider dans les moments de crise. Elliot Fukui, Surviving the Apocalypse Together, a mutual aid safety and wellness planning template for COVID-19. Mad Queer Organizing Strategy. Le modèle international Peer Support, fondé sur la réciprocité et le respect, propose également des façons non coercitives de répondre à la détresse et à d'autres situations difficiles. Le capitalisme racial, alors oui, ce texte est évidemment traduit de l'anglais, de l'américain. Le capitalisme racial génère des structures de pouvoir basées sur le profit. Aider devient alors un métier plutôt qu'une composante naturelle de nos communautés. Tout en veillant à ne pas endosser le rôle du héros, volant au secours des personnes qui vivent des expériences éprouvantes, nous devons rejeter le récit qui veut que seuls les experts disposent des compétences pour aider les gens. La révolution commence au cœur même de nos relations, ici et maintenant, et consacrer du temps à nos amis dans les moments difficiles est essentiel à la construction d'un monde meilleur. Les personnes folles et leurs mouvements remettent également en cause les récits dominants en matière de pathologie. Au sein du Hearing Voices Network, par exemple, on trouve de nombreuses personnes qui ont des hallucinations auditives ou visuelles, mais sans que ces expériences soient attribuées à un diagnostic particulier. La solidarité avec les personnes folles consiste à les encourager à définir à elles-mêmes leurs expériences et à décider de façon autonome du cours de leur vie. Elles peuvent, par exemple, choisir de prendre des médicaments psychiatriques ou non. Des ressources comme le guide pour décrocher des médicaments psychotropes en réduisant les effets nocifs, Will Hall, guide pour décrocher des médicaments psychotropes en réduisant les effets nocifs, de Icarus Project. Il y a eu Icarus France aussi d'ailleurs. Aide les gens qui souhaitent cesser ou réduire leur prise de médicaments. Voilà, je vais m'arrêter ici. Par rapport aux espaces autonomes et en autosupport et assistamine l'entonnoir pour aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et allez, on va continuer. Je vais vous proposer d'écouter les éléphants bleus de Courges.
Oh, regarde Alice, le grand éléphant bleu qui brille dans la nuit, et tous les autres éléphants bleus qui dansent bercés par le vent sur les drapeaux. Souffle, souffle le vent pour faire danser les éléphants bleus.
Alice qui a débranché le fil du magnéto. Bleu.